C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Le scandale chez Hockey Canada, c'en est un de fond et de forme. Sur le fond, ben vous le savez là, Hockey Canada avait un fonds de plusieurs millions pour dédommager des victimes de sévices sexuels, par exemple, commis aux mains de quelques joueurs de hockey de l'équipe nationale junior il y a quelques années, qui sont soupçonnés d'avoir agressé sexuellement une jeune femme intoxiquée. On a payé la victime voulait pas judiciariser. Mais la question s'est posée, comment ça se fait que Hockey Canada a de l'argent pour, comme ça, régler des comptes, des cas comme ça, à l'amiable avec des gens. C'est pas tous les employeurs, pas tous les organismes qui font ça. Donc, ça a été un scandale. Et le scandale de forme, c'est à quel point tout ça est mal géré par les dirigeants de Hockey Canada. Manon Genet est associée fondatrice chez Tact Intelligence Conseil, firme de relations publiques, entre autres. Salut Manon.
Bonjour Patrick.
Tout ce qui traîne se salit. Je pense que l'adage s'applique bien à Hockey Canada.
Oui, en fait, dans leur cas, c'est vraiment le supplice de la goutte. Je peux pas croire qu'on parle encore de ça. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on parle de ça. Ils ont vraiment fait tout ce qu'il faut pas faire. Fait que si on a des fois des études de cas intéressantes pour les universités de voici une belle gestion de crise, voici
comme
ce qu'ils font faire. Écoute, de ce qu'il faudrait faire, premièrement, c'est l'authenticité. Hein, là, ils ont essayé d'être le plus empathique possible. Là, ce qu'ils ont fait, c'est être beaucoup sur la défensive. Ils ont jamais reconnu qu'ils avaient fait quelque chose de pas correct. Ce qui fait que ça crée une espèce de barrière à la communication. Donc, quand après, ils veulent nous dire, regardez, on va faire un plan d'action, on va poser des gestes et tout ça, ben, on les écoute pas parce que comme ils ont pas convenu qu'ils avaient fait une faute, qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, comment on peut croire qu'ils vont changer les choses? Donc, et vous vous rappellerez peut-être que quand la nouvelle patronne du CA, elle est allée parler aux élus à Ottawa, elle avait un peu dit, la façon dont elle parlait, ils ont compris qu'elle était préoccupée plus par son image que par apporter des correctifs réels. Donc ça, c'est certain que ça laisse des traces.
Et ce qui trahit aussi l'état d'esprit chez Hockey Canada, il y a eu ce sondage qui a fuité, où on dit des questions assez dirigées, là, et je résume un peu, c'était, ben, est-ce que vous trouvez pas que ça, c'est la faute des journalistes qui font de la désinformation?
Ben, c'est, en tout cas, dans notre métier à nous, quand on est rendu à dire c'est la faute des journalistes, là, pour vrai, c'est parce que t'as pas d'argument, là. T'es rendu à c'est la faute des journalistes, c'est parce que t'as pas expliqué ce que tu avais expliqué assez clairement. Bon, des journalistes de mauvaise foi, j'imagine que ça, j'en ai jamais rencontré, mais j'imagine que ça doit exister. Mais souvent, c'est la façon dont on explique les choses. Et comme je te disais, l'enjeu, c'est vraiment, ils ont pas dit, effectivement, il y a un enjeu et voici ce qu'on va faire pour y remédier.
OK. Là, il y a des commanditaires majeurs qui ont retiré leur soutien à Hockey Canada. On pense à Tim Hortons, on pense à Canadian Tire. Sauf que, il y a Chevrolet qui l'avait déjà fait en juin. Qu'est-ce qui fait qu'une compagnie privée comme ça décide de tirer la plug ou pas?
C'est une excellente question. Dans ce cas-ci, je te dirais trois choses. La première chose, c'est le hockey. Et on parle de hockey chez les jeunes. Le hockey au Canada et au Québec, c'est sacré. Hein? On n'a pas trop le droit de toucher à ça. Donc, quand ça arrive des événements comme ceux-là, les compagnies se disent, OK, si je tire la plug, si je mets fin à mon partenariat avec Hockey Canada, est-ce que je vais avoir plus de monde qui vont être en colère après moi que de gens qui vont trouver que j'ai fait la bonne chose? Donc, première raison, le hockey, les jeunes, un peu sacré au Canada, on veut pas trop toucher à ça. Deuxième raison, ils ont regardé un peu les chiffres. Hein? Il y a des ventes. Tim Hortons, ça vend des cafés, ça vend des beignes, ça vend tout ça. Donc, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'impact probablement sur les ventes et ils ont pensé qu'il n'y avait pas tant d'impact sur leur réputation. Ils n'en ont pas entendu parler tant que ça. Ils sont un peu passés entre le mur et la tapisserie. Ils n'ont pas été pris à partie beaucoup. Donc, cette raison-là, donc pas tant sur la sellette. Troisième raison, ils ont peut-être, comme c'est un partenariat qu'ils avaient avec Hockey Canada qui date un peu de longue date, ils leur ont donné une chance. C'est-à-dire, essayez de nous prouver que vous allez pour vrai porter un certain nombre de gestes. Et Hockey Canada, vous l'avez vu, là, ils ont lancé un plan d'action, mais ils l'ont mis sur leur site. Après, on n'en a plus entendu parler. Et comme ils n'ont jamais dit qu'ils avaient commis une faute, on ne l'a pas écouté leur plan d'action en se disant ils font ça juste pour s'occuper de leur image. En
c'est un peu le supplice de la goutte aussi. Il y a le plan d'action qui est une chose. Il y a une enquête interne commandée à un ancien juge de la Cour suprême. Parfait. Mais il y a aussi toute la question des fonds cachés. On pensait qu'il y avait un fonds caché. Non, il y avait un double fonds dans le fonds caché qui a été révélé récemment.
Ben, tout à fait. Mais ça, tu vois, ils contestent ça. Ils disent que c'est pas un fonds caché, que c'est un fonds qui sert à d'autres choses. C'est ce qu'ils disent. Mais comme ils ont pas la crédibilité pour être capables de dire ça, on les croit plus. Parce que quand ils ont parlé, ils nient les évidences. Donc après, quand ils veulent nous dire, ben non, écoutez, ce fonds-là sert à autre chose, on les écoute plus tellement. Et ils parlent beaucoup à travers les journalistes. Ils ont pas une très grande communauté sur les médias sociaux. Donc, les journalistes sont leur courroie de transmission. transmission numéro un. Fait que quand tu dis à ta courroie de transmission numéro un que c'est toi qui comprends rien de ce que je dis, c'est sûr qu'il y a des interférences un peu après sur la communication.
Je l'ai dit, là, c'est un scandale de fond et de forme. Mm-hmm. Mais des fois, les deux, ça se rejoint. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour bien gérer ça?
Bien, la première des choses, là, c'est pas juste la façon de le dire. T'sais, quand il y a des crises, là, souvent, c'est la faute des communications. C'est la façon dont on le dit. On est en 2022. Quand il y a des crises comme celle-là, le problème, les communications, c'est à la fin. Le problème, c'est la façon dont ils l'ont fait. Ils ont essayé de cacher, ou en fait, on a eu l'impression qu'ils essayaient de cacher les événements. Donc ça, c'est un problème. C'est pas juste un problème de communication, c'est un problème de ce qu'ils ont fait. Je me permets une parenthèse. Campagne électorale lundi, il y a des partis d'opposition qui ont moins bien performé. Vous allez le voir, éventuellement, ça va être la faute des communications, là. C'est pas parce qu'il y avait pas un bon chef, c'est pas parce qu'il y avait pas des bons engagements. C'est toujours la faute des communications. Donc, dans ce cas-là, pour revenir à Hockey Canada, vraiment, il y avait un problème sur la façon dont ils ont fait les choses. Et encore une fois, s'ils ont pas dit qu'il y avait un problème, ça donne l'impression qu'ils veulent essayer de dire les choses autrement, mais pas de faire les choses autrement, alors que c'est de faire les choses autrement qu'ils devraient faire.
J'ai souvenir que Maple Leaf, la compagnie alimentaire, avait bien géré les choses quand il y a eu la crise de la listériose, qui avait quand même tué des Canadiens.
Oui.
En quoi ils auraient pu, à Hockey Canada, bien apprendre de Maple Leaf?
Écoute, c'est tellement le meilleur exemple au monde. Pour vrai, là, Maple Leaf, ils ont fait deux choses vraiment extraordinaires. La première, c'est que c'est le président qui est sorti. Et c'est connu, là, je dévoile rien, c'était contre l'avis des avocats. Parce que les avocats disaient au président, si notre président sort, après ça, il n'y a plus rien. Là, on n'a plus de plan B, on n'a plus de backup. Et le président leur avait répondu, il y a des gens qui sont morts, la situation ne pourra jamais être pire que maintenant. Donc ça, ils ont sorti leur président qui a reconnu qu'il y avait... Il n'a pas essayé de dire, il n'y a pas d'erreur, il y avait des gens qui étaient morts. Et l'autre chose, et ça c'est vraiment important en gestion de crise, quand tu es en crise, ce qui fait que tu vas passer à travers, c'est ce que tu as fait avant. Donc chez Maple Leaf, la sécurité alimentaire, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et ils le savaient, les employés le savaient, ils se le faisaient dire à tous les jours. Et il y avait Michael McCain qui parlait aux employés régulièrement pour leur dire, la sécurité alimentaire, c'est prioritaire chez nous. Donc quand il y a un événement qui arrive, comme celui auquel tu fais référence est arrivé, ben là, bien évidemment, les employés défendaient Maple Leaf en disant, moi je travaille là et moi je le sais que c'est important, la sécurité alimentaire, on me le dit à tous les jours. Donc c'est pas juste un problème de communication. Quand tu es en crise, ce que tu as fait avant te donne de la crédibilité pour ce qui s'en vient. Il n'y a pas beaucoup de monde qu'on a entendu sortir qui ont défendu Hockey Canada. Là.
Merci Manon, très intéressant. C'est le supplice de la goutte pour Hockey Canada et peut-être qu'ils devraient revoir non seulement leur pratique de com, mais leur pratique tout court.
Tout à fait.
Merci d'avoir été avec nous.
Patrick Lagacé en accéléré.
Maryse Doreche était journaliste. Elle s'est fait connaître il y a une dizaine d'années après avoir ouvertement parlé de la chirurgie bariatrique qui lui avait fait perdre plus de 200 livres. Photos à l'appui, photos avant et photos après. C'est un reportage dans le magazine Urbania qui avait fait sensation à l'époque et qui avait aussi ouvert, disons ça comme ça, de nouvelles pistes de discussion sur l'obésité, sur l'acceptation de soi. Mais l'après-chirurgie, ça n'avait pas été un long fleuve tranquille pour Maryse Doreche. Le 27 septembre dernier, Maryse Doreche s'est enlevée la vie. Elle avait 42 ans. Isabelle Doreche est la sœur de Maryse. Elle est avec nous. Isabelle, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, parlez-nous de votre sœur Maryse.
Oh, je pourrais vous en parler longtemps, hein, de ma petite sœur. Comme je dis toujours, ma grande petite sœur, parce qu'elle était vraiment plus grande que moi. Mais Maryse était... Bon, c'est difficile de parler d'elle au passé, mais bon, Maryse était la personne la plus authentique, passionnée, épicurienne que je connaisse. C'était une femme inspirante qui laissait vraiment personne indifférent. C'était surtout aussi une sœur vraiment généreuse qui laisse un très grand vide dans mon cœur, dans celui de notre maman. Puis dans celui de bien des gens.
Ben, je suis d'accord avec vous, Isabelle. Là, moi, je connaissais pas votre sœur. Je savais elle était qui, mais je la connaissais pas personnellement. Et quand la nouvelle de son décès s'est répandue, les témoignages ont vraiment se sont multipliés là sur les réseaux sociaux. C'était quelqu'un de très apprécié. Écoutez, le message que vous voulez passer là maintenant, là, quelques jours après le décès de votre sœur par suicide, c'est quoi? Pourquoi vous décidez de prendre la parole publiquement comme ça?
Mais le suicide, hein, c'est pas facile à vivre pour ceux qui restent. Hein. On était là pour elle, le soutien, elle était bien entourée, aimée. C'est difficile de voir cet événement-là quand même arriver alors qu'on pense avoir tout fait en notre pouvoir pour empêcher cet événement d'arriver, bien entendu. Alors, tu sais, elle avait vraiment tous les gens autour d'elle, elle était bien entourée. Malgré les signaux d'alarme que nous avions reçus, bien, nous n'avons pas pu être à la hauteur, si on peut dire.
Quand vous parlez de signaux d'alarme, Isabelle, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
En juin dernier, elle avait fait une tentative de suicide. Donc, c'était son plus grand cri d'alarme. C'est ce qui a fait que tout le monde s'est bien attroupé autour d'elle pour s'assurer qu'elle était toujours en présence d'amis, de famille ou plein de gens autour d'elle. Mais ce qui est le plus, je dirais, désolant dans cette histoire, c'est que le jour où elle est entrée à l'hôpital en juin pour sa tentative de suicide, dès le lendemain, elle sortait de l'hôpital. Donc, tout de suite après une tentative de suicide, l'hôpital n'a pas cru bon de lui soutenir, de lui fournir le soutien médical dont elle aurait eu besoin, parce que on s'entend, hein, c'est pas cogner l'orteil sur le coin du lit, là. Elle a fait une tentative de suicide. C'était, on peut pas laisser les gens ressortir comme ça. Ça, il faut un soutien médical. Moi, je suis capable de l'aider. Je suis capable d'être la meilleure sœur du monde, mais c'est pas ma spécialité. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. C'est ces personnes-là qui doivent être présentes. C'est impératif.
Isabelle, quand votre sœur Maryse, au mois de juin, a fait sa tentative, bon, elle a été brièvement, si je comprends bien, hospitalisée. Après ça, on lui a donné son congé. Est-ce qu'il y avait une forme de filet? Est-ce qu'il y avait une forme de suivi avec des organismes? C'était quoi le suivi thérapeutique?
Malheureusement, non. De ce que j'ai vu dans ses documents, en faisant un peu de recherche dernièrement, elle aurait eu un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre en novembre prochain. On parle de juin. C'est malheureusement trop peu trop tard.
Donc, et on lui a dit rendez-vous dans 5 mois.
Exactement. Rendez-vous dans 5 mois. Et puis, en attendant, bien, c'était à nous. C'est sûr, comme je dis, on a tout notre petit sentiment de culpabilité à l'intérieur de nous. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai été assez présente? Est-ce que cette question-là va me hanter probablement pour quelques années, je dirais, si c'est pas pour toujours. Mais comme je dis, je l'ai fait le soutien dont moi j'étais capable de faire, comme ses amis, son conjoint, comme tout le monde autour d'elle pouvait lui donner comme soutien, mais c'est le soutien médical. La chirurgie, elle avait un soutien médical pour sa chirurgie, les suites de l'opération. Tout récemment, tu sais, cette opération-là a créé un manque de vitamines, un manque de nutriments, des carences, plein de carences, principalement en calcium.
Si vous permettez, Isabelle, on va juste donner un peu de contexte, là. Votre sœur, oui. Maryse, au début des années 2010, pesait là 360 livres et elle a décidé d'avoir la chirurgie bariatrique. Ça, bon, je rentrerai pas dans les détails techniques, là, mais on broche une partie du système digestif et ça permet de perdre du poids. Mais ce qui vient avec ça, c'est toutes sortes de problèmes de santé physique. Et ce que vous dites, c'est ça. Elle devait prendre des suppléments. Elle avait des carences aussi en vitamines et toutes sortes de nutriments. Ça, est-ce que vous pensez que ça a pu avoir un effet sur sa psyché après toutes ces années?
Oui, c'est ce que je crois. Et même, Marie, si vous avez parlé du brochage de l'estomac, il y a plusieurs variantes de l'opération bariatrique. Marie a eu la plus invasive, c'est-à-dire elle s'est fait enlever une partie de l'intestin au complet. Donc, c'est là où il y avait une malabsorption. Donc, malabsorption au niveau des os, hein, ces os étaient fragiles, mais probablement aussi au niveau du cerveau. Le cerveau a autant besoin de nutriments, sinon plus que d'autres parties du corps. Ce qui fait qu'à mon avis, ben la santé mentale de Maryse n'était pas à son maximum non plus, manquant de vitamines et de nutriments. Donc, je crois que oui, il y a un lien. Je crois, mais c'est mon impression, c'est mon opinion et pas professionnelle. Sauf que c'est un peu de la logique aussi, car si nos os manquent de calcium, ben notre cerveau manque aussi de ce dont il a besoin.
C'est très triste. Merci de prendre la parole comme ça. Écoutez, saluez votre famille, transmettez nos condoléances, Isabelle. Oui. Merci beaucoup.
Merci. Puis pour ceux là qui voudraient soutenir un peu la cause, il y a un GoFundMe au nom de Maryse de Reich, dont 10% de la somme amassée ira à Suicide Action Montréal. Ils font d'ailleurs un grand soutien présentement à nos proches là qui ont besoin de leur aide. Et puis pour ceux qui souhaiteraient leur rendre un dernier hommage à ma sœur, bien les funérailles sont ce soir de 18h à 21h au complexe funéraire J.A. Guilbeault sur le boulevard Saint-Michel à Montréal.
Merci Isabelle, bonne chance pour la suite.
Merci M. Lagacé.
Salut, c'était Isabelle de Reich, c'est la sœur de Maryse de Reich qui s'est enlevée la vie le 27 septembre dernier. C'est une histoire qui a eu un grand retentissement là, sur les réseaux sociaux ici à Montréal. C'était quelqu'un qui avait quand même un profil public, qui avait choisi il y a une dizaine d'années de prendre la parole comme ça. La connaissais-tu?
Non, je la connaissais pas personnellement. Elle était sur ma page Facebook, donc okay. je regardais une fois de temps en temps ce qui se passait, mais j'ai été vraiment secouée quand j'ai appris son décès. Parce que c'est immensément triste, là. Tu sais, quand on apprend le décès comme ça d'une personne qu'on imagine la fin de sa vie. Non, vraiment, là, je trouve que c'est... puis je suis contente d'entendre sa sœur aujourd'hui. Parler. Tu sais, je trouve que c'est une belle prise de parole. Ouais.
Et ben c'est ça, c'était Isabelle de Reich, sa sœur Maryse décédée récemment. Il y a un GoFundMe, ça peut coûter cher des fois les funérailles, donc Maryse de Reich sur GoFundMe. Et je souligne aussi l'aide qui va être apportée via ce GoFundMe à Suicide Action Montréal. Et je rappelle aussi la ligne 1-800-APPEL si vous avez des pensées où vous pourriez vous mettre en danger. Texto aussi, 1-855-957-5353, 1-855-957-5353.
Brosse, 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 je me brosse les dents. Brosse, 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 je les brosse souvent.
Bon, il y a une controverse qui implique le brossage de dents des enfants à l'école, des écoliers, en fait. Il semble qu'il y a une initiative où Québec va demander aux enseignants de superviser le brossage de dents des enfants. Donne-nous les faits d'abord, Maud.
Bon, alors, le programme a été créé en 2017, mais avec la pandémie, ça a été un petit peu retardé. C'est un programme qui a été créé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça s'appelle le Programme québécois de brossage supervisé des dents avec un dentifrice fluoré en service de garde, à l'enfance ou à l'école primaire. Donc, c'est pour les élèves de maternelle, mais aussi de première à sixième année. Alors, le projet, c'est que c'est déployé, là, c'est un projet pilote, donc ça a commencé à être déployé dans la Capitale-Nationale, dans la région de la Capitale-Nationale et des Laurentides. On dit que c'est une base volontaire, mais c'est comme pas clair, parce qu'on dit aussi dans le document, j'ai lu le document de base de 2017, que ça devrait atteindre 80% des élèves. Donc, c'est volontaire ou on vise 80%, c'est pas exactement clair, mais ça commence à être déployé. Et il y a des exigences. Donc, les professeurs doivent superviser le brossage de dents. Ça doit durer 2 minutes. La personne qui supervise doit être présente à chaque étape du brossage. L'enfant doit se laver les mains avant et après. C'est 2 élèves en même temps maximum au lavabo. Et les brosses à dents ne doivent pas se toucher.
Fait que si t'as une classe, écoute, j'ai parlé à une prof de maternelle là, pour une chronique il n'y a pas longtemps, une prof qui a démissionné. Elle, dans mon souvenir, on va dire, là, pour, grosso modo, 25 élèves, OK?
Oui.
Donc, 2 minutes par paire d'élèves, elle en a pour une demi-heure, là.
Oui, mais sauf que le petit problème, c'est que le dîner, des fois, ça dure 30 minutes. Fait que non, je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. Et ça fait entre 500 et 700 petites dents à superviser.
C'est ça, je veux dire, y a-t-il assez de lavabo?
Ben, tout ça fonctionne pas. Alors, les professeurs, c'est une commotion aujourd'hui. Ils sont comme, ben, voyons, on va-tu vraiment faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le temps de faire ça? C'est comme impossible pour nous. C'est une utopie. Donc, les professeurs sont un peu sous le choc d'apprendre que ça va être mis en place. Et la position du ministère, Pat, c'est qu'en fait, ils ont un problème de caries. Puis même l'OMS en a fait une priorité en 2022. Ils ont eu un document qui disait que tous les problèmes buccaux, de santé, de la bouche et tout ça, ça devait être revu, ça devait être une priorité. Sauf qu'est-ce que ça passe vraiment par les écoles? C'est ça la question. La position du ministère, donc, c'est que plus de la moitié des élèves de deuxième année du primaire sont déjà touchés par la carie dentaire et que malgré bien des mesures préventives, ce pourcentage-là n'a pas bougé depuis les années 90. Donc, on a un problème de caries. Donc, eux autres, ils disent, faut agir en amont. On va essayer de rejoindre tous les enfants. Et donc, on va passer par les écoles. C'est ça un peu le
T'sais,
qui est un raccourci selon moi, mais c'est ça la réflexion derrière.
Je comprends le principe. Je comprends le principe.
On peut pas être contre le principe en fait.
Tu sais, c'est l'école essaie de suppléer certains travers, disons sociologiques, économiques, d'éducation familiale aussi. Tu sais, c'est comme tout le programme. Je sais pas moi, des petits déjeuners dans les écoles. On peut se dire que c'est pas la job des écoles de nourrir les enfants, c'est la job des parents. Mmh. Très vrai. Sauf que tu veux avoir des enfants qui passent la journée sans avoir bien mangé, ben c'est peut-être un moindre mal. Mais c'est que l'histoire du brossage, t'ajoutes ça à plein d'autres tâches dites connexes que les profs ont.
Oui.
Les profs, je pense que juste les tâches connexes, c'est plus que la tâche.
Oui, c'est ça. Puis le ministère dit ben l'intégration des saines habitudes de vie en matière de santé dentaire, c'est une responsabilité collective partagée. Mais moi, je mets un petit bémol, c'est-tu comme une responsabilité parentale pour commencer, peut-être? Ce serait peut-être plutôt ça, parce que dans le fond, les profs sont déjà surchargés, on a un manque de profs, on a des enfants qui mangent pas le matin, comme tu viens de dire, on a des enfants à besoins particuliers, on manque de spécialistes.
On manque de robinets aussi qui ont de l'eau propre.
Oui, c'est vrai, on a du plomb, on en parlait récemment.
Il y a des écoles où il n'y a pas d'abreuvoir.
La Fédération autonome d'enseignement a fait une sortie juste il y a environ une heure, là, il disait l'école n'est pas un fourre-tout. Et il disait, bien sûr, les profs souhaitent que leurs élèves aient une bonne vue pour lire, hein, des os solides et des muscles en santé pour bien bouger, qu'ils mangent des repas équilibrés, qu'ils sachent réagir en cas d'urgence. La question n'est pas là. La mission de l'école est par ricochet des enseignants et des enseignantes est d'instruire, de socialiser, de qualifier. Et c'est tout à fait ça. C'est ça le problème.
Je te parlais, Maud, des tâches connexes. Là. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'éducation. Oui. Les profs m'écrivent beaucoup. J'en parle à l'émission, j'en parle ailleurs. Les gens seraient surpris de constater à quel point les profs donnent de leur personne pour des trucs qui n'ont pas directement rapport avec l'instruction.
Oui, payent des choses avec leur propre budget.
Des choses.
Tout à fait.
Combien de profs m'ont raconté, puis je vois passer ça sur leurs médias sociaux, avant la rentrée, là, ça fait le tour de Marketplace avec le chum pour aller acheter des bureaux, des bibliothèques, des affaires de même. Ça fournit soi-même du matériel. C'est tellement vrai, c'est tellement absurde que Justin Trudeau a fait une campagne électorale dans laquelle une de ses promesses, c'était une déduction d'impôt pour les profs qui achètent du matériel scolaire pour les enfants.
Oui. C'est ça, mais on s'attaque pas à bonne affaire là, ça marche pas là, c'est une mauvaise solution en fait, puis il faut plutôt parler de l'alimentation, de l'absorption je pense de sucre, le jus, tu sais, parler des collations trop sucrées puis faire de la prévention au niveau des parents, c'est peut-être ça, agir en amont, ça peut être aussi juste de avoir une hygiéniste qui vient en parler, donner de l'information aux parents. Moi je pense que c'est plus ça que d'aller dans les écoles demander aux profs de rajouter ça. Premièrement, moi, je pense que ça se fera juste pas non plus. Je pense que c'est complètement irréaliste, en fait. C'est juste impossible.
Chaque jour, faut que tu consacres une demi-heure à faire brosser les dents des enfants, une demi-heure dans des conditions optimales, dans le sens où toutes les paires d'élèves ont accès à un robinet pour se brosser les dents quand ils veulent. Ils font pas à fil, là. Christy, ça va prendre la moitié de l'après-midi dans le réel. Là.
Non, c'est ça. Puis il disait même, Pat, dans le document, qu'il fallait jeter les brosses à dents si elles ont été partagées, si elles sont tombées à terre. Prévoir 2 minutes par brossage de dents par enfant, je l'ai dit tantôt. Distribuer le dentifrice individuellement sur des languettes prédécoupées.
Wow.
Ou encore, attends, et de laver chaque semaine l'étui et le capuchon des brosses à dents. C'est dans le document, là.
Voyons.
Mais le document émane d'où?
Ministère de la Santé 2017.
C'est le ministère de la Santé.
Oui.
C'est pas le ministère de l'Éducation.
Non, ministère de la Santé et des Services sociaux. Parce que, comme je te dis, l'OMS, ça part aussi. Il y a comme un désir, là, de corriger cette problématique-là. Puis j'ai regardé, Patrick, est-ce que ça existe dans d'autres pays? J'ai trouvé en Ouganda, en Afrique de l'Est. C'est vrai. Il y a un programme pour les enfants 6 ans et moins dans les écoles.
Écoutez, moi, je veux pas banaliser ça. Parce que la santé dentaire, là, c'est un problème dont on parle pas beaucoup. Okay. Quand t'es adulte puis t'es pas couvert par des assurances, quand t'es adulte, t'es couvert par des assurances, mais que la procédure dentaire devient un petit peu complexe, compliquée, c'est extrêmement dispendieux.
Ça peut être anxiogène, ça peut être très douloureux et anxiogène de savoir que tu peux pas te faire réparer une dent puis que t'as mal.
T'as mal, puis après ça, la solution, c'est de l'enlever.
C'est clair.
C'est un problème important. Je veux pas banaliser ça. Puis chez les enfants, semble-t-il que la carie est en augmentation, etc. Je veux pas banaliser ça. Mais je veux pas banaliser non plus, et je pense qu'on le banalise à Québec, à quel point les profs sont surtaxés en termes de tâches.
Ça passe pas par là. C'est pas ça la bonne solution. On pourrait parler de sucre puis de malbouffe aussi, parce que s'il y a de la carie, c'est parce qu'aussi on ingère des mauvaises affaires. Faut peut-être parler de ça à la place.
Oui, hey, boy. OK, intéressant. Chez vous, tout le monde se brosse les dents comme du monde, deux minutes?
Brosse les dents, deux minutes. Deux minutes, je suis même pas sûre.
Et tu jettes la brosse à dents quand quelqu'un échappe la brosse
non,
à dents?
Non, mais on a déjà chanté cette chanson-là. La chanson qu'on a entendue tantôt, là, ça, ouais. On la connaît. Ben oui, elle passe partout. Ça.
Brosse les dents. J'ai comme... Peux-tu cracher dans la soupe?
Non.
Moi, j'ai comme des mauvais souvenirs de Passe-partout.
Bon, ça y est.
Non, mais j'écoutais pas Passe-partout. Quand j'étais petit, j'ai raté cette vague-là. Ma mère me faisait écouter un peu plus tôt, quelques années avant, Sesame Street. Mais mon frère, lui, il écoutait Passe-partout. Puis c'était à 6 heures. Puis moi, je voulais écouter une nouvelle pendant qu'on mangeait.
Ben voyons donc, t'écoutais une nouvelle à quoi ce temps?
Écoute, j'ai 11 ans de différence avec mon frère. Okay. Fait que quand j'avais, je sais pas moi, 13 ans, on écoutait Passe-partout à maison parce que fallait que Max écoute Passe-partout. Moi, je voulais écouter une nouvelle. Mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu niaiseux.
J'ai adoré Passe-partout, sauf les confidences de Passe-partout à la fin, que je n'aimais pas. Ben, je la trouvais moralisatrice, puis j'aimais pas son ton.
Est-ce que tu te souviens de Pascaro qui faisait le chat?
Ben non, tout ça, c'est comme tout le monde parle de ça. Hein? Quand on passe de Passe-partout, il faut absolument parler de Pascaro. Je me souviens de grand-mère et de ses contes.
Ça, c'était quelque chose.
Ah oui, hein?
Je me souviens de Fardoche qui pétait des coches. C'était pas ton époque de Rose Bonbon.
Quand Pascaro avait brisé la vitre, la recollait avec du mastic.
Puis elle avait perdu, ça avait joué dans son coffre à outils. Pas une petite crise, là. Tu sais, il donnait de la marde. C'était le bon temps, ça, Maud.
C'est-tu quoi?
On t'était pas fait en porcelaine.
J'ai juste deux mots à dire. Vas-y donc. À propos de Fardoche. Masculinité toxique.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est le jour 225 de l'agression russe en Ukraine et l'armée ukrainienne reprend des territoires. On le sait, il y a eu cette percée à l'est du pays, percée éclair qui a repris de nombreux kilomètres carrés aux Russes. Ça a été, disons, une surprise dans cette guerre. Et là, il y a une percée au sud. On va aller parler avec Stéphane Sioran, qui est journaliste basé à Kiev. Stéphane, salut!
Salut!
Où en est-on au jour 225 là, dans les contre-offensives ukrainiennes?
Eh ben la contre-offensive se poursuit hein, aussi bien sur le front de l'est comme vous l'évoquiez que sur le front du sud. Alors on va parler du Donbass d'abord. Hein. C'est ça a été la grande avancée de ces derniers jours. Il y a eu la reprise de la région de Kharkiv qui s'est déroulée ces dernières semaines et l'armée ukrainienne a poursuivi ses efforts et a repris des territoires dans le Donbass et notamment la ville stratégique de Liman dans la région de Donetsk. C'est une petite ville de 30 000 habitants mais qui est un carrefour ferroviaire très très important parce que en fait depuis cette gare de transport l'armée russe peut envoyer énormément de matériel, d'hommes au cœur des combats. Et donc, il y a eu une grosse bataille. Hein. L'armée ukrainienne, cette fois-ci, a fait face à une véritable opposition de la part des Russes. Et finalement, l'armée ukrainienne s'est emparée de Liman et l'avance se poursuit dans la région de Lugansk où les Russes continuent de perdre des territoires. Et puis donc, au sud également, il y a une percée de chars qui s'est déroulée assez impressionnante hein, depuis environ 4 jours qui progresse le long du grand fleuve, le Dniepr et petit à petit, des villages qui sont récupérés par l'armée ukrainienne avec toujours les mêmes scènes hein, qu'on voit revenir en vidéo sur les réseaux sociaux, également par les canaux officiels de populations qui se sont terrées chez elles pendant des mois sous l'occupation et qui accueillent les soldats ukrainiens en leur offrant de la nourriture, notamment en tombant dans leurs bras. Il y a des scènes tout à fait émouvantes, mais cela n'empêche pas que la guerre est quelque chose de très dramatique. Il y a des pertes des deux côtés, bien entendu. Et le coût humain de cette reconquête est extrêmement élevé pour l'Ukraine.
Stéphane, on voit beaucoup de vidéos où des soldats russes se rendent aux forces ukrainiennes. J'ai même vu là, l'image d'un tank. Et c'est difficile de les partager parfois dans des situations semblables. Ce qui est de la propagande, ce qui sont des montages et ce qui est vrai. Est-ce que sur le terrain, ça se vérifie qu'il y a des désertions comme ça?
Alors, on commence à en voir. Vous savez, pour nous, les journalistes, c'est difficile de nous en rendre compte parce que nous n'avons pas accès à la première ligne des combats, les combats qui sont d'une extrême violence, hein, vous vous en rendez compte. Et donc, les journalistes sont tenus à l'écart et nous, reporters, nous pouvons nous rendre sur les champs de bataille une fois que la bataille est terminée, dès le moment où un certain nettoyage, c'est le terme militaire, a été effectué, où les routes ont été déminées et l'accès est relativement sécurisé. Et en effet, on voit beaucoup ces vidéos, c'est à la fois de la propagande et à la fois quelque chose d'intrinsèque à la société ukrainienne. Pourquoi c'est quelque chose d'intrinsèque à la société ukrainienne? C'est parce que, à la différence de la société russe, c'est une société qui est libre et tous les soldats ont des téléphones portables avec eux, ils ont des caméras, des GoPro qui sont installés sur leurs casques et ils filment les combats. Alors pour des raisons militaires, mais également pour garder une trace de ces combats. Et malgré les consignes de l'état-major ukrainien de limiter au maximum l'information qui sort des champs de bataille, et bien ces soldats, ils sont branchés sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur Facebook, et très très vite sur les champs de bataille, on voit ces vidéos qui arrivent et qui sont récupérées sur les réseaux sociaux, et ça, je dirais pas que c'est de la propagande, c'est vraiment de l'information de base. Mais néanmoins, vous avez raison, c'est une guerre, il y a également une bataille sur le champ de la communication, et les Ukrainiens sont particulièrement habiles, je dois dire, pour mettre en scène cette information. Je sais de sources sûres que le ministère de la Défense ukrainien a recruté dès le début de la guerre des spécialistes de la communication, mais également des cinéastes, des documentaristes qui récupèrent ce flot d'images, qui y apportent ces musiques que vous entendez sur YouTube, sur Twitter, qui accompagnent les avancées des chars. Et donc, il y a une véritable mise en scène de façon à montrer une image un tout petit peu glorieuse de l'armée ukrainienne. Donc voilà, il y a un petit peu ces deux côtés, la nouvelle ère des réseaux sociaux et puis également un effort certain de la part du gouvernement ukrainien de mettre tout ça en forme, sachant que le président ukrainien est, il ne faut pas l'oublier, un producteur audiovisuel.
Stéphane, vous signez dans le Nouvel Observateur un article très intéressant sur l'utilisation de drones de fabrication iranienne par le camp russe. Qu'est-ce que ça signifie d'abord que les Russes soient obligés d'utiliser de la technologie iranienne?
Oui, tout à fait. Je me suis rendu hier en reportage dans une petite ville de 200 000 habitants qui s'appelle Bilat Serkva, à peu près une heure et demie de route au sud de Kiev. C'est une ville de caserne militaire où sont basés plusieurs corps d'armée ukrainiens. Et dans la nuit de mardi à mercredi, une douzaine de drones kamikazes ont survolé la ville. Six d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne, mais six d'entre eux se sont écrasés sur des baraquements de la 72e brigade mécanisée ukrainienne, une brigade d'élite ukrainienne, et j'ai pu l'observer de mes propres yeux, les bâtiments étaient proprement détruits. Alors il y avait un véritable blackout informationnel de la part de l'armée ukrainienne, mais j'ai pu m'entretenir avec quelques soldats qui m'ont montré des photos de débris de drones, et il s'agissait bel et bien de drones suicides de fabrication iranienne. Or, on sait, selon plusieurs informations diplomatiques, que le Téhéran a livrer quelques centaines de ces drones suicides à l'armée russe. Pourquoi l'armée russe les utilise maintenant? Bon, il y a plusieurs raisons. Elle a besoin d'armes, elle a besoin de frapper dans la profondeur, elle perd du terrain sur les champs de bataille, mais elle a besoin d'exercer un climat de terreur et des destructions à l'arrière du front. Or, l'armée russe dispose de moins en moins de missiles balistiques, ces missiles de croisière qui sont tirés depuis des bateaux depuis la mer Noire, notamment ces fameux missiles balistiques de type calibre qui ont été fortement utilisés au début de la guerre. On estime que l'armée russe a utilisé déjà 60% de ses stocks de missiles de croisière. Donc il semble que les Russes aient besoin de faire des économies, de maintenir leur stock de missiles, parce qu'on ne fabrique pas comme ça en un claquement de doigts de nouveaux missiles pour les remplacer, et continuer à exercer ce climat de terreur à l'arrière pour faire vraiment peser la peur sur la population.
Merci beaucoup, Stéphane. On va se reparler très bientôt, j'en suis certain. Faites attention à vous.
Salut, bonne journée.
Salut, c'était Stéphane Sioan, qui est journaliste français basé à Kiev, en Ukraine.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.